19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. La langue française a ses particularités, les archéologues le savent bien. On ne dit jamais l'âge de fer, mais bien l'âge du fer, contrairement à l'homme de fer, qui n'est en rien l'homme du fer. Voici près de 3 millénaires émerge ce fer étonnant métal qui sera ce soir au cœur du magazine d'archéologie de France Culture afin d'appréhender les changements économiques et sociaux qu'entraîna cette métallurgie si particulière. Entre Occident et Extrême-Orient, mon invité traque sous la rouille du temps ce fer et les hommes qui l'exploitèrent. Sylvain Beauvais, bonsoir.
Bonsoir Vincent Charpentier.
Spécialiste de paléométallurgie, vous êtes chargé de recherche au CNRS et œuvrez dans le laboratoire IRAMAT, l'Institut de recherche sur les archéomatériaux. Sylvain Beauvais, quelle fume a déconvenu de savoir qu'il n'y aurait pas de fer sur Terre ?
Ah oui, sous la forme métallique, mais sous forme d'oxyde. Il y en a énormément, il y a 5% au moins de la croûte terrestre qui est composée d'oxyde de fer, et assez bien répartie sur la surface.
C'est-à-dire qu'on n'a jamais de fer-fer ?
Non, il est dans cette atmosphère oxydante qui est l'atmosphère terrestre, stable sous forme d'oxyde. Donc avec de l'eau et de l'oxygène, le fer devient un oxyde de fer. Et le minerai qu'on exploite est cet oxyde de fer.
On le sait peu, mais les premiers objets en fer l'ont été à partir de métal très particulier issu de l'espace.
Bah, tout à fait, c'est le fer extraterrestre. C'est toujours intéressant de parler de ce fer extraterrestre pour les périodes anciennes. Oui, effectivement, ce sont des découvertes fortuites de ces météorites venant de l'espace, très riches en fer, qui a été exploité pour les premiers objets en fer.
Alors, il y a eu un article récent d'Albert Jambon, publié, je crois, dans le Journal of Archaeological Science, qui reprend ce dossier. Quelques très beaux exemples, bien sûr, l'appui-tête et puis la dague découverte dans la tombe de Toutankhamon, donc vers 1350 avant notre ère. On connaît aussi d'autres haches, par exemple, trouvées dans la dynastie Shang en Chine. Dans différents points du monde, comme ça, on a utilisé de la météorite.
Bah oui, effectivement. C'est la découverte des premiers métaux, ça a toujours été de cette façon-là. On a trouvé des pépites qu'on a martelées, qu'on a chauffées, qu'on a transformées. Donc pourquoi pas le fer météoritique, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que ce fer météoritique, il est suffisamment différent du fer produit par l'homme, du fer terrestre, qu'on puisse le différencier chimiquement. Donc ce fer météoritique est très riche en nickel, un pourcentage de nickel très très important, et donc c'est tout le travail de M. Jambon. Et effectivement, on est capable maintenant de retracer dans les vieilles collections muséales ces vieux objets.
Est-ce qu'on peut parler de métallurgie ? Non ?
Oui, c'est la métallurgie de transformation. Alors, il y a effectivement, la métallurgie du fer peut être divisée en plusieurs étapes. Alors, il y a la métallurgie de réduction pour et la métallurgie de transformation. Pour le fer météoritique, on va directement à la métallurgie de transformation. La météorite devient un lingot qu'on transforme en forge.
Mais oui, mais on la chauffe ou on la martèle plutôt, non ?
Ah, c'est beaucoup plus simple de le faire en le chauffant. Le fer, même s'il est fortement ductile quand il n'y a pas beaucoup de carbone, il faut quand même le chauffer, sinon il va casser avant. Mais comme on connaît déjà la métallurgie du cuivre, on peut le faire avec le fer de la même manière.
Pour autant, quelle société fut pionnière dans cette métallurgie du fer ? L'Anatolie ou le Caucase, par exemple, vers 1200 avant notre ère ?
On a même des textes plus anciens que ça, des textes hittites qui parlent de métallurgie du fer, mais on n'a, pour le coup, maintenant, pas encore de traces matérielles de cette production de fer si ancienne.
Alors, les hittites, c'est bien sûr la Turquie.
Oui, c'est la Turquie, bien sûr, oui, mais un peu plus ancien que c'est autour du 15e siècle avant notre ère. Et effectivement, cette métallurgie ancienne est marquée par la présence d'objets. Mais on n'a pas les traces de fabrication, donc d'où ça vient, où est-ce que ça a été produit pour la première fois, ça reste encore une grande question.
Le vrai sujet, c'est, je crois, plutôt la Jordanie, là où on aurait vraiment une vraie production en fer.
Ça reste encore à l'état de théorie. Hein. C'est une thèse qui a porté sur le site d'Ajloun, la région c'est le Mougarat al-Wardé, sur les plateaux jordaniens, entre le lac Tibériade et la mer Morte. On a des très anciennes traces d'exploitation de ces hématites d'oxyde de fer et qui viendraient à la suite des première métallurgie du fer possible, Wadi Feinan, plus au sud, où là, on a exploité pendant tout l'âge du bronze du minerai de cuivre pour produire du cuivre. Et on a utilisé, à la fin de cette période-là, de l'oxyde de fer pour permettre de liquéfier la scorie, pour pouvoir libérer ces petites billes de cuivre et en faire des masses plus importantes. Et on a, à la fin de la période, entre le 12e et 11e siècle avant notre ère, des petites billes de fer qui commencent à se former dans ces métaux cuivreux. Donc on peut commencer à voir peut-être les prémices d'une métallurgie du fer par réduction des minerais.
Ça a dû se passer comment, cette invention du fer, pour vous ?
Oh bah, par un tâtonnement assez...
Vous pensez au fruit du hasard, par exemple ?
Normalement,
non. C'est une telle technologie.
Le problème, c'est que comme le fer n'existe pas sous forme métallique, il faut bien l'extraire de l'oxyde de fer. Donc, cette première extraction du fer, de l'oxyde de fer, il ne peut que se faire par façon fortuite. Parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'on va produire à partir de cet oxyde de fer.
Évoquons aussi l'Afrique dont l'histoire est actuellement à l'honneur avec bien sûr la nomination de François-Xavier Fauvel au Collège de France. L'Afrique souvent délaissée a aussi une métallurgie tout à fait extraordinaire.
Alors oui, on a des datations très très anciennes pour l'Afrique. Alors moi, je reste très distant de ces problématiques-là parce que c'est pas ma spécialité. Je sais que c'est très polémique, mais on a des datations très anciennes en Centrafrique qui méritent encore aujourd'hui d'être confirmées. Et je pense que François-Xavier Fauvel aura un point de vue très tranché sur la question.
Alors ce qui est très intéressant, c'est que très longtemps, les textes ont dit que c'était les Phéniciens qui apportaient ce métal. Donc une sorte de diffusionnisme, un emprunt. Et visiblement, ce ne serait pas du tout le cas avec les découvertes qui ont été faites au Mali.
Alors, c'est encore un point sur lequel je ne suis pas forcément spécialiste, mais effectivement, on a des découvertes très anciennes et locales, avec certainement des foyers locaux, et pas une importation. Donc ça barre en brèche cette théorie diffusionniste de l'apport de la métallurgie du fer, en effet.
Lié au texte, bien sûr. En Europe, ce métal apparaît vers, on va dire, peut-être 800 avant notre ère. En France, s'agit-il d'un emprunt ou d'une innovation ?
Alors, les premiers objets en fer trouvés en France sont un peu plus anciens que ça, c'est aux alentours du 10e siècle aussi avant notre ère. Ce sont sous forme de petites pointes de flèches en tôle de fer ou des petits rivets sur des dagues ou des manches d'épée. Et ça, effectivement, on a ça sur des sites paléolithiques alpins. Et ce sont des toutes petites traces de métallurgie. Alors, on n'a pas de métallurgie productive, visiblement. Certainement des objets qui ont circulé depuis très loin. Et dès qu'on commence à avoir une première métallurgie locale, on a le sentiment que ces métallurgistes possèdent déjà la boîte à outils complète du forgeron. Donc ça laisse quand même beaucoup plus penser à un apport et un emprunt, une diffusion de ces techniques vers la France. Oui.
Et cette diffusion, elle viendrait d'où dans ces cas-là ? L'Europe de l'Est ?
Europe de l'Est, alors je reprends toujours cette référence de la carte de Radomir Pleiner avec sa grande théorie diffusionniste. Effectivement, ça viendrait plutôt d'Europe de l'Est avec, par la Grèce et par les Balkans, oui.
Qu'en est-il du reste du monde ? Vous m'avez dit la Jordanie, l'Afrique, on voit émerger cela aussi donc dans l'Europe occidentale. Qu'en est-il bien plus loin dans les pays extrêmes orientaux ?
Alors dans les pays extrêmes orientaux, on a une évolution beaucoup plus particulière de la métallurgie du fer. Les premiers temps sont beaucoup moins bien connus que vers chez nous et semblent être un peu plus tardives, même si on a en Chine une exploitation du fer qui va très très vite. Et au 5e siècle avant notre ère, on a les premières fontes. On produit de la fonte, donc du fer métallique sous forme liquide. Ce qu'il va falloir attendre quand même le 12e, 13e siècle en France pour avoir cette exploitation.
Sylvain Beauvais, j'ai une question colle, dirais-je, à vous poser. Existe-t-il des sociétés de l'âge du fer qui n'emploient jamais ce métal ?
Alors oui, on a toujours, comme beaucoup de sociétés, des civilisations dites souvent périphériques. Alors on va avoir tendance à décrire ces sociétés comme ça. Alors en Arabie notamment, et je pense que vous êtes parfaitement au courant de la situation dans ce secteur-là, où on a très très peu d'objets en fer qui circulent et qui sont consommés. Alors que pour l'époque médiévale, on a des productions importantes. Donc effectivement, on a une sorte de hiatus dans ces régions.
Comme toute nouveauté, ce métal se limite tout d'abord à des objets de prestige. On reste donc sur quelques objets accaparés peut-être par une population.
Alors c'est pas propre au fer. Toutes les grandes innovations techniques sont en général accaparées par un petit groupe avant d'être diffusées dans la société. Alors pour le fer, c'est particulièrement le cas. notamment les premiers objets en fer sont systématiquement cantonné à l'armement, la parure, et puis après les éléments de prestige et de la vie quotidienne des élites sociales. Pour la fin du premier âge du fer, où on a ces habitats aristocratiques qui se développent, on a quasiment du fer que dans ces sites-là et dans les tombes de ces aristocrates. Les fermes rurales autour n'ont absolument pas du tout de fer, quelques rares couteaux parfois.
Donc, ce n'est pas une révolution si c'est accaparé par un petit groupe.
Non,
si
mais
ce n'est pas diffusé.
Effectivement, comme beaucoup de ce qu'on appelle révolution en archéologie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lent. Mais on a toujours du mal à mettre en évidence, de toute façon, ces révolutions en archéologie. On a une profondeur temporelle toujours un peu distordue.
Et à quel moment son emploi se généralise-t-il ?
Alors on commence à avoir, à la fin de la Thènes ancienne, donc à partir du 4e siècle, au milieu du 3e siècle, le fer qui commence à devenir beaucoup plus présent sur les sites d'habitat. On a un remplacement par exemple des les fibules, donc ces sortes de broches vestimentaires, passent du bronze au fer dans la majorité des sépultures. Et on commence à avoir systématiquement des outils agricoles, des outils artisanaux dans tous les types de sites.
Cela implique donc, si on porte donc des fibules en métal, que le fer est un métal noble ?
Alors oui, c'est un métal noble. On a des textes qui expliquent que les Gaulois aiment bien ce métal brillant, donc faisaient bien polir ce métal pour le voir briller.
Curieusement, on dit souvent que les campagnes médiévales n'avaient que très peu d'outils en fer. Pensez-vous tout le contraire ?
Oui, on a toujours tendance à minimiser le fer dans les sociétés du haut Moyen-Âge.
L'âge sombre, Dark Millennium.
Exactement, mais en fait, on a un système d'organisation qui se modifie un petit peu, qui se relocalise, mais on a des productions très importantes et plus importantes que pour l'âge du fer. Oui.
En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que le fer, visiblement, on le trouve partout, contrairement au cuivre ou à l'étain.
Tout à fait, il y a 5% de la croûte terrestre qui est composée de fer, alors bien sûr de la croûte terrestre, parce que sinon le cœur de notre planète c'est du fer en fusion, mais c'est 5% de la croûte terrestre qui est composée de ce fer, assez bien réparti comparé au cuivre ou à l'étain qui est beaucoup moins bien réparti et qui a été obligé, donc on a été obligé de développer des réseaux d'échanges très très importants pour faire cette métallurgie du bronze. Le fer rebat les cartes.
Complètement.
Oui, ça rebat les cartes parce que on peut en produire partout. Moi, tous les travaux que je fais sur le nord de la France, je m'aperçois que pour les premiers temps de la métallurgie du fer dans le nord de la France, en fait, on en produit partout. Dans le nord de l'Aisne, dans le bassin parisien, en Ile-de-France, absolument partout. Et c'est seulement, plus on va demander des productions importantes, plus des régions vont se spécialiser. Donc on va avoir des spécialisations importantes dans le Sénonais Pays d'Hôte, dans la Sarthe.
Et la Bourgogne aussi, visiblement, non ?
La Bourgogne, hélas non, on aimerait bien en trouver en Bourgogne, mais on a assez peu de production. Ah si, la Bourgogne, le Sénonais et la Puisée. Mais tout ce qui est Bourgogne... du côté de Vix, par exemple, on aimerait bien avoir de la métallurgie du fer autour de Vix, mais on n'arrive pas à en trouver pour cette période-là.
J'ai appris que votre métier était de couper le fer pour en détruire quelques échantillons.
Effectivement, on a besoin de rentrer dans la matière pour réussir à la faire parler. Donc, uniquement travailler sur des aspects morphologiques externes nous apporte pas suffisamment d'informations pour travailler sur les techniques de fabrication, sur la provenance du fer ou sur même la datation.
Comment faites-vous alors ?
Eh bien, faut faire des prélèvements. Alors, on n'appelle pas ça des analyses destructives, c'est des analyses intrusives. Ce qui est quand même très très différent, c'est que l'échantillon qu'on va prélever va pouvoir être analysé, mais analysé une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, autant qu'on en veut. Donc l'échantillon n'est pas détruit. Dans ces derniers temps, quand je fais des prélèvements sur des objets de musée, je fais systématiquement des moulages au latex pour pouvoir reproduire une copie du prélèvement et la replacer dans l'objet. C'est ce que j'ai fait sur le bandage de la tombe de Lavaux.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Sylvain Beauvais, la tombe de Lavaux, c'est bien sûr la grande découverte française pour l'âge du fer depuis 50 ans. On y a découvert beaucoup de choses, des chaudrons étrusques et donc un mobilier tout à fait exceptionnel. Et puis, du fer. Vous l'avez étudié ? Alors, et vous avez étudié surtout ces bandages de roues. Ces bandages de roues qui sont si particuliers quand même.
Alors oui, j'ai eu la chance de pouvoir prélever une partie de la partie du bandage de roues conservée, parce qu'en fait, sur les deux bandages de roues, il y en a un qui a complètement disparu, il n'est que sous forme de produits d'oxydation. Et le deuxième est partiellement détruit, alors que la partie conservée est, elle, parfaitement conservée. Il y a une atmosphère très particulière dans cette tombe. Et donc j'ai pu prélever une petite partie et à l'analyser, effectivement.
Ça a donné quoi ?
Alors c'est un bandage de roue qui a été visiblement utilisé. Donc c'est pas uniquement un char d'apparat. Donc c'est toujours intéressant de voir que le métal a subi un certain écrouissage à froid. Pour la provenance, c'est toujours le principal problème de ces bandages de roues que j'ai beaucoup étudié. Pour ces périodes, ces chars sont des biens de prestige. Et la caractéristique du bien de prestige, c'est un bien qui a une longue vie avant d'être déposé dans le fond d'une tombe. Et donc, il peut venir de très loin. Et visiblement, il n'est pas local. Il vient d'une région dont je n'ai pas, moi, la signature chimique. Donc, ça reste une grande question.
Vous avez quand même une idée, une hypothèse.
Mon hypothèse viendrait qu'il viendrait de l'Est. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose.
En tout cas, ces cerclages de roues sont extrêmement difficiles à faire. C'est quand même une sorte de prouesse technique.
Alors c'est assez intéressant de voir l'évolution de ces bandages, parce que les premiers bandages du 7e, 6e siècle en Allemagne ou même à Marainville-sur-Madon, qui est une tombe à char très connue de l'Est de la France, en fait on roulait pas sur le bandage lui-même, sur la feuille de métallique, mais on roulait sur les clous. Il y avait des énormes clous qui étaient posés sur cette surface. Donc, c'était forcément très très bon pour les chemins boueux de l'époque. Et après, plus la technologie évolue, plus on a une diminution du nombre de clous et de l'importance du clou, et là on est vraiment sur ce bandage de roue. Et effectivement, les bandages de roue, c'est assez compliqué, parce que il y a quand même une dernière soudure à faire pour fixer ce clou, ce bandage sur lui-même, et surtout le fixer sur la roue en bois, sur l'âme de la roue en bois.
Alors, il y a 15 jours, nous évoquions une nouvelle tombe à char découverte en Normandie, à Ifs exactement. On a vu une ou deux photos seulement. Visiblement, la tombe n'était pas pillée, et la seule chose que l'on voit réellement, c'est ces deux bandages de roues.
Oui, bah effectivement, c'est aussi pour ça que j'aime bien travailler sur ces bandages, c'est parce qu'il y a toujours beaucoup de métal conservé, et donc j'ai beaucoup plus de choses à dire là-dessus. Pour la veau, par exemple, le reste des objets en fer sont tellement corrodés qu'il y a peu de chances qu'il reste beaucoup de métal à l'intérieur, et donc il n'y a pas de raison que je vienne les torturer.
Nous avons coutume de dire que les Gaulois sont de grands forgerons, avec leur fameuse épée souple, par exemple, ou l'invention d'ailleurs de la fameuse cotte de maille. Est-ce une réalité ou une idée empreinte à quelque nationalisme ?
Alors, la question est assez bien tournée. Ça me fait mal de confirmer une avance d'idées nationalistes, mais effectivement, le Gaulois est un très bon forgeron. Et effectivement, les techniques développées par ces forgerons gaulois sont excellentes, et le moindre objet est issu d'une sorte de pétrissage de la masse. Alors, c'est peut-être que c'est mes origines bretonnes qui vont parler, mais on fait un Queen Yaman de fer.
C'est-à-dire
que quand on produit une masse de fer à l'état brut, on a une très mauvaise répartition du carbone dans cette masse. Donc on peut avoir des zones très très carburées, des zones très peu carburées. Et le fait de l'écraser, de la replier sur elle-même, de la souder sur elle-même, cette masse, comme ça, comme on pétrirait une pâte feuilletée, ça permet de transformer cette hétérogénéité en couches plus ou moins acérées qui donnent justement cette qualité mécanique aux épées dont vous parliez.
Cette souplesse,
exactement. En fait, c'est un damas, c'est une sorte de damas naturel de pétrissage de la masse.
Le damas, c'est le damas avec ses aciers tordus que l'on martèle, c'est ça ?
Différentes compositions en carbone, exactement, et qui donnent des très jolis dessins sur la lame après polissage.
Mais le damas, ça n'arrive que bien plus tard.
Oui, c'est ça. Mais alors, on mélange souvent différentes techniques entre le damas de pétrissage dont je viens de vous parler, le damas d'assemblage où là, on vient vraiment souder des parties plus ou moins tirées les unes sur les autres. Et puis après, on a aussi le vrai damas, hein, ce qu'on appelle le vrai damas, l'acier Woods, qui est une technique indienne ou proche-orientale, et qui est de l'acier au creuset, où là, on vient créer un damas par cristallisation dans le fond d'un creuset, par refroidissement très très lent, et on a les armes des Arabes pendant les croisades, justement.
Sylvain Beauvais, des forges, l'archéologie en a trouvé. J'ai souvenir d'en avoir vu, par exemple, à Bibrac, le Mont Beauvray. Comment doit-on s'imaginer ces forges celtiques ? Tout d'abord, dans l'obscurité, le son de la soufflerie, l'enclume à moins d'1,50 m du foyer ?
Alors oui, il y a quand même beaucoup d'idées reçues sur ces ateliers de forge gaulois. Alors il faut déjà balayer l'image de cet automatique debout devant son enclume. Il faut plutôt imaginer un forgeron gaulois assis sur le sol avec un foyer de forge au sol, un peu comme on verrait un atelier de forge d'Afrique de l'Ouest actuellement. Et effectivement, la pénombre, ça a toujours aidé à travailler pour voir la couleur du métal, pour évaluer la température du métal grâce à la couleur. Mais on s'y adapte très très bien aussi à l'extérieur et on a, d'ailleurs les exemples archéologiques nous le montrent bien, on a des foyers de forge à l'intérieur de bâtiments, puis on a aussi parfois des ateliers de forge à l'extérieur, à l'air libre. Ça veut peut-être aussi signifier qu'il y a des activités sur certains sites ou des activités pérennes, et puis des activités momentanées et saisonnières sur d'autres.
L'image qu'on doit avoir, c'est donc quelqu'un qui est plus près du forgeron africain ou plus près de la grande forge ?
Alors ça dépend encore de la période, parce que l'âge du fer est très très long. Je pense qu'on peut avoir des ateliers très complexes dans les oppidas, avec des quartiers artisanaux très organisés, où là effectivement on peut avoir quelque chose assez comparable à l'image qu'on peut avoir d'une forge médiévale, une ville médiévale. Mais la majorité des ateliers de forge se trouvaient dans des sites ruraux, et là on est beaucoup plus certainement dans des forges proches, des forges d'Afrique de l'Ouest.
Ce que trouve au sol les archéologues, ce sont les battitures des étincelles magnétiques que l'on capture à l'aide d'un aimant.
Alors, ce sont des écailles d'oxyde qui se forment sur la surface de l'objet et qui finissent par sauter quand on tape dessus.
En fait, c'est des étincelles.
C'est pas vraiment des étincelles, c'est des petites plaques d'oxyde qui vont sauter. Alors les étincelles, c'est encore autre chose, mais les étincelles, ça se forme quand le carbone de l'acier brûle dans le foyer. Mais voilà, ce qui est assez terrible, c'est que l'homme se bat pour transformer un oxyde en fer, et le fer n'a qu'une seule envie, c'est de revenir à son état stable d'oxyde. Et donc, c'est ça la corrosion dans l'atmosphère, le métal il va se corroder, il va se transformer en oxyde. Et dans la partie forge, quand on va mettre l'objet, on va porter à haute température dans la forge, on va aussi lui apporter beaucoup d'oxygène et on va l'oxyder à chaud. Et donc la périphérie de l'objet va s'oxyder, il va y avoir une sorte de carapace d'oxyde qui va se former autour de l'objet. Et quand on va venir après le battre sur l'enclume, ces battitures vont sauter. Et nous, archéologues, on est très contents de ça, parce que ces petites battitures sont très stables, donc se corrodent plus, et s'immiscent dans tous les petits trous de poteaux et dans toutes les anfractuosités du sol, et on arrive à mettre en évidence des emplacements d'enclumes et des emplacements de tuyaux de forge sur les chantiers archéologiques. Alors, à ce propos, aujourd'hui, Guillaume Hulin de l'INRAP a développé une méthode très intéressante avec une petite machine qui s'appelle un Bartington. Alors c'est de la résistivité magnétique. Et il arrive maintenant à mettre en évidence, après décapage des sites de l'âge du fer ou d'époque romaine ou même d'époque médiévale, des emplacements de forges, alors que nous, paléométallurgistes, on n'était pas vraiment capables de les mettre en évidence parce que soit les sols avaient été fortement décapés ou particulièrement bien nettoyés. Donc maintenant, il arrive à mettre en évidence des pièces dans une villa gallo-romaine qui a servi comme de forge.
Et on en trouve partout, c'est ça qui est étonnant.
Et on en trouve beaucoup plus que ce qu'on s'attendait, effectivement, et ça c'est très très intéressant, c'est une petite révolution de ces dernières années.
Justement, l'utilisation généralisée du fer va-t-elle entraîner de véritables bouleversements sociaux?
Alors le fer en lui-même peut-être pas, mais en tout cas il va faire partie de ce grand mouvement de révolution agricole, par exemple, où les oppidas, les premières villes européennes vont permettre justement à une certaine partie de la population de s'extraire du monde agricole pour avoir une activité beaucoup plus artisanale et de service à l'intérieur de ces proto-sites urbains. Et effectivement, le fer participe à ce développement agricole, avec le développement des outils agricoles, de la charrue et autres objets.
Justement, sur la généralisation du fer et les oppidas, donc l'oppidum, les cités, les villes gauloises, il nous faut parler aussi de ces clous qui sont faits donc pour renforcer les murailles gauloises, et on produit des clous dans un nombre absolument invraisemblable, incalculable.
Oui, alors c'est d'autant plus étonnant pour ces clous de Murus Gallicus que...
Les murs gaulois.
Oui, ces murs gaulois. On se demande vraiment, même, on se questionne leur utilité réelle. Parce que c'est des tonnes de fer qui ont été dépensées dans cette construction. Alors, certaines personnes pensent que ça rend les murailles beaucoup plus solides. D'autres personnes pensent que c'est une sorte de sacrifice, un peu. On va montrer à la population qu'on est capable de sacrifier une telle quantité de fer. Et ça montre un peu l'importance du potentat local. Le fait est que ces clous, une fois qu'ils sont introduits dans la muraille, on ne les voit plus. Donc, voilà. La question reste en suspens, mais c'est une énorme consommation de clous, effectivement.
La révolution aujourd'hui, c'est qu'une nouvelle méthode de datation des aciers est désormais possible ? Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, plus besoin de charbon de bois.
Alors ça, c'est quelque chose qui va révolutionner, qui révolutionne déjà beaucoup de questions en archéologie. Et on a des datations maintenant sur des dépôts de lingots de fer, par exemple, qu'on n'arrivait pas à dater parce qu'il n'y avait pas de mobilier datant avec. Donc c'est des dépôts de demi-produits bipyramidaux. La tendance était plutôt de les dater de la part du Hallstatt quand ils n'étaient pas très réguliers. Et puis plus
le premier âge du fer, donc.
Voilà, oui, pardon. Et le plus ils étaient réguliers, plus on les attribuait à l'époque romaine. Donc voilà, ceux qui avaient une forme parfaitement régulière étaient romains. Et aujourd'hui, on les date systématiquement. Et systématiquement, on a les datations du premier âge du fer, donc entre moins 800 et moins 400. C'est le problème du C14, on a des plateaux, et donc là, le plateau du Hallstatt est très compliqué.
Évoquons aussi une recherche au sein de votre laboratoire. En Extrême-Orient, par exemple, les temples du Cambodge utilisent du fer.
Alors oui, ça c'est un travail d'une de mes collègues du CNRS, Stéphanie Leroy. Et effectivement, elle travaille sur toute cette économie du fer cambodgien, Khmer, entre le 9e et 14e siècle. Et elle est en train de travailler sur déjà la répartition des productions en fer, et donc c'est ces échanges, mais aussi elle retravaille toute la chronologie de la construction de ces temples Khmer, parce que déjà on avait très peu de textes et peu de textes qui existaient avaient été détruits par les Khmers rouges. Maintenant, elle est capable, en datant le fer qui a servi de tirant pour bloquer les blocs de pierre dans ces temples, elle a refait toute la chronologie de ces temples. Et il y a parfois des inversions d'attribution de rois qui sont corrigées par tout cela.
Et puis, nos cathédrales sont curieusement aussi des édifices de ferraille.
Alors ça, c'est un autre travail de mon laboratoire et qui a été remis beaucoup en avant ces derniers temps avec Notre-Dame de Paris. C'est un travail qui a été développé par Philippe Dillmann et Maxime L'Héritier sur le fer des cathédrales. Et effectivement, il y a depuis les toutes premières cathédrales énormément de fer utilisés et qui ont pu d'ailleurs être datés grâce à cette technique.
Ce fer, il sert à quoi exactement ? On le trouve où ? Parce que quand on se promène dans une cathédrale, on ne voit pas de fer. On voit de la pierre, des vitraux.
Alors parfois, on les voit, mais on fait abstraction. Certaines cathédrales, notamment la cathédrale de Beauvais, a énormément de fer en extérieur. Alors les arcs-boutants sont couverts de petites tiges métalliques. Sinon, on a aussi des utilisations de fer à l'intérieur, dans le triforium. Parfois, on se demande vraiment l'utilité aussi.
Sylvain Beauvais, merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Bertrand Daniel et avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr la semaine prochaine. Le magazine d'archéologie de France Culture évoquera d'autres lieux, d'autres temps.